France Culture.
Souvent, on parlait du divin Mozart. Hein. C'est une chose qu'on entend souvent. En fait, je trouve qu'on devrait dire l'humain Mozart, parce que je trouve que dans sa musique, on trouve tous les traits les plus profonds, les plus beaux, les plus sensibles de la psyché humaine, en fait. Et c'est ça que je trouve magnifique et bouleversant dans sa musique. C'est qu'il est au plus près de nos émotions et de notre état d'être humain, en fait.
Mais vous savez, Mozart, c'est pas seulement théâtral, ce n'est pas seulement dramatique, ce n'est pas seulement comique, ce n'est pas seulement tout ça, c'est toutes ces choses-là ensemble. Et la difficulté, justement, c'est que pour jouer Mozart aussi, il faut pouvoir tout dire sans rien souligner. Et donc, pour l'écouter, c'est la même chose.
France Culture.
La série musicale Zoé Sfez. Bonjour et bienvenue dans une émission toujours libre de tous les récits, de toutes les explorations. Une heure de radio sur la musique en musique, c'est la série musicale. Bienvenue. C'est le grand retour de l'éternel retour, notre série qui ausculte depuis 5 saisons maintenant la manière dont un compositeur, un répertoire continue, parfois 100, 200 ou en l'occurrence 270 ans après sa naissance, d'habiter nos oreilles, nos inconscients, d'accompagner nos vies, qu'on le sache ou non. Alors depuis 5 saisons, on a écouté comment les mélodies de Chopin, les harmonies de Debussy ou le colorisme incroyable de Ravel continuent d'inspirer parfois à notre insu du monde du jeu vidéo au hip-hop, de manière générale toute la musique qui se fabrique aujourd'hui depuis 50 ans. Mais cette fois, nous nous attaquons sans doute au cas le plus immense, le plus intense et le plus complexe, c'est-à-dire le cas Mozart. Il nous a fallu attendre évidemment, mais c'est sans doute parce que Mozart est qui occupe bien sûr une place complètement à part, à la fois génie absolu, totem de la musique classique par excellence. Sa musique est immédiatement reconnaissable, comme vous l'entendez ici, omniprésente et presque trop familière, au point parfois de nous sembler évidente comme usée par sa propre perfection et le fait qu'on l'a en permanence dans l'oreille, de la pub en passant par le cinéma. Et pourtant, c'est précisément là que commence le mystère, car contrairement à d'autres compositeurs, Mozart résiste extrêmement bien à la transformation, ou alors, disons-le autrement, il reste là, toujours, quelle que soit la forme qu'on lui impose, difficile de le sampler ou de le reprendre, sans dialoguer explicitement avec lui, avec cette figure. Prodige autrichien, mort à seulement 36 ans, avalé par l'art, même déformé, déplacé, hybridé. La musique de Mozart reste toujours la musique de Mozart. Mais loin d'être une relique sacrée, elle agit comme une musique profondément proche de nous. Une musique qu'on retrouve finalement comme un ami. Derrière son apparente simplicité, elle accueille toutes les projections de l'âme humaine. Le jazz, le hip-hop, la chanson française, arabe ou argentine vont puiser avec une facilité déconcertante dans la musique de cet être encore, toujours, extrêmement mystérieux. Alors pourquoi reprend-on Mozart ? Pour rire, pour pleurer ? Parce que c'est lui, ou peut-être parce que c'est nous. Avec plus de 500 citations, réappropriations recensées, c'est sans doute un record. Impossible évidemment d'être exhaustif, nous serons donc résolument subjectifs dans la série musicale sur France Culture.
Mozart, comment l'entendez-vous, Giorgio Streller? Ou plutôt, comment l'entends-tu?
Avec Mozart, nous sommes à la limite de l'indéfinissable. Disons que le génie est indéfinissable. Et quand même, le génie, qui dans le même temps est tellement loin de nous, c'est comme le soleil. Quand même, le soleil nous donne de la chaleur. Il nous appartient, le soleil. Il est tellement loin et il est tellement nécessaire, quotidien, je voudrais dire. Voilà que le génie a cette double caractéristique d'être dans le même temps l'univers, l'éternel, s'il y a quelque chose d'éternel, et dans le même temps l'ami, le frère qui est à côté de nous, avec lequel on parle, avec lequel on se promène. Et dans ce sens, évidemment, pour cette côté quotidienne, fraternelle, Mozart, c'est le frère de nous tous, vraiment. Certainement, il n'est pas le père, c'est l'ami. Le frère...
À qui on voudrait ressembler.
À qui on voudrait ressembler.
Et qui nous ressemble aussi.
Et qui nous ressemble aussi, mais qui a un côté qui nous échappe et dont qui nous fait aussi peur.
A circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone. Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of a song. Half-remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair. A circle in a spiral, a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever-spinning reel, as the images unwind like the circles that you find in the windmills of your mind.
Thank you.
Et pour ouvrir cette émission, les musiques que vous connaissez sont toutes extrêmement bien, sans tout à fait savoir d'où elles viennent pourtant. C'est Les Moulins de mon cœur, The Windmills of Your Heart, partition, chanson célébrissime, écrite dans les années 60 par Michel Legrand pour le grand cinéma américain, l'affaire Thomas Crown. Chanson thème qui sera repris à l'envi à peu près par tout le monde, jusque dans la chanson arabe. Et c'est ce très court morceau, ce thème, Michel Legrand, qui est un grand maître de la circularité, l'empreinte à Mozart, vous venez de l'entendre, à cette symphonie concertante pour violon et alto numéro 2 en mi bémol. Une symphonie concertante que tout le monde ne connaît pas nécessairement, c'est toute la particularité de la musique de Mozart. On en connaît tellement des musiques de Mozart, et pourtant il y en a tant avec lesquelles on n'est pas familière, tant il a produit. Michel Legrand, qui est formé auprès de Nadia Boulanger, appartient à cette lignée de musiciens pour qui les frontières entre les répertoires n'existent pas vraiment, ou plutôt à ce prototype de l'européen hyper formé à la musique classique et qui est capable de dériver vers le jazz avec une capacité à créer de la musique très universelle qui glisse du coup une espèce d'hommage presque un peu secret, un motif emprunté à cette symphonie qui est reconnaissable par les musiciens, un peu moins par le grand public. Ce clin d'œil discret, eh bien, justement, il nous dit à quel point un mec comme Legrand, justement, a ceci de commun avec un Mozart, qu'il est capable d'absorber, de transformer, de métaboliser tout ce qui se passe, tout ce dont il vient et tout ce qui se joue au moment où il est vivant. C'est ce que Mozart a fait, lui qui a tout écrit, tout traversé depuis sa jeunesse d'enfant prodige. Du style galant, il passe au langage savant et l'inverse, de la sonate à l'opéra, de la musique sacrée au concerto, de la symphonie à la plus belle musique de chambre, lui qui écrira pour littéralement tous les instruments de son époque et notamment pour les claviers qui sont en train de vivre une grande transformation. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que la citation n'est ni pastiche ni révérence. Elle semble plutôt s'apparenter à une forme de geste fraternel qui nous dit combien la musique de Mozart est évidemment efficace, mais qui nous dit aussi que Mozart n'est pas une statue du passé, mais bien un musicien parmi les musiciens dont les idées continuent de circuler librement. Et c'est comme ça qu'on commence cet éternel retour autour de cette musique de Mozart qui reste extrêmement mystérieuse, extrêmement simple en apparence, et pourtant si proche, comme le racontait avec une telle intelligence l'immense metteur en scène d'opéra George Strehler dans une sublime émission consacrée à Mozart avec la géniale productrice de radio Claude Maupomé. Écoutez cette fois, toujours la même Claude Maupomé, interroger un certain Daniel Barenboim sur la musique de Mozart.
Ce qui est curieux, c'est que très souvent, les gens ne s'intéressent pas à Mozart avant l'adolescence et même presque la 20e année. Souvent. Alors que j'ai remarqué ça, que beaucoup de gens aiment Chopin tout de suite ou Beethoven. Et Mozart, en général, il faut une certaine maturité, j'ai l'impression.
Oui, parce qu'à première vue, c'est la facilité elle-même. La musique est facile. Il faut, comme vous dites, une certaine maturité pour pouvoir s'apercevoir de tout ce qu'il y a derrière cette facilité, si vous voulez, c'est presque pauvreté de nombre de notes. Je crois que c'était Schnabel qui disait que les jeunes musiciens ne jouent pas Mozart parce que c'est trop facile et ils veulent démontrer qu'ils peuvent jouer des choses plus difficiles. Et ceux qui ont déjà une certaine maturité, un certain âge, ne le jouent plus parce que c'est trop difficile.
Thank you.
Non sono più forte, je n'ai plus la force de te résister. Les extraordinaires Ruggero Raimondi et Kirite Kanawa dans une version d'anthologie du Don Giovanni de Mozart, direction Laurine Mazel, dans cet air de séduction qui illustre extrêmement bien ce que disait Daniel Barenboim, d'une apparente immense simplicité. C'est un air, si vous l'entendez une fois, vous le sifflotez avec une facilité déconcertante et vous avez l'impression que vous l'avez toujours eu dans la tête. Et cet air, en apparence si simple, si délicat, avec qui a cette évidence finalement, qui traduit bien ce que raconte la chanson, l'évidence d'avoir envie de se donner la main, il a donné lieu à des explorations assez géniales, notamment par un certain compositeur cité par Claude Maupomet dans cette interview. Il s'agit de Chopin, un jeune Chopin qui, à 17 ans, écrit des variations autour de ce thème de la ci darem la mano. Elles sont ces variations extrêmement courtes et c'est une manière pour lui d'explorer un instrument qui est arrivé à maturation, à savoir le pianoforte, instrument que Mozart avait commencé à explorer. C'est en écoutant ces variations autour de ce motif de Mozart que son ami Schumann dira qu'il est un génie musical. Elles ont été reprises, jouées de manière complètement obsessionnelle et par Schumann, puis par Clara Wieck, justement pour tenter de percer le double mystère, celui du génie de Mozart et celui du génie de Chopin, déjà en réalité au XIXe siècle. Il y a cette capacité à prendre Mozart pour le triturer, en faire quelque chose qui révélerait son propre génie. Écoutez. Bruce Liu, qui interprète deux de ses variations pour piano en si bémol sur le thème de La ci darem la mano, vous l'entendez, hein, ce thème qui revient avec une espèce de persistance, mais qui permet d'explorer beaucoup de choses qu'un très jeune Chopin veut explorer. Explorer sur Mozart, est-ce que c'est vraiment possible? Beaucoup ont eu peur de le faire. D'autres n'ont pas hésité. C'est le cas du génial pianiste de jazz Thomas Enko, qui a consacré un album entier à Mozart, avec une approche jazz. Et il y a ce paradoxe, là encore une fois, de ces mélodies parfaites qui se suffisent à elles-mêmes, mais qui, sans doute, si on débarrasse Mozart de l'apparat, de sa figure de génie mort trop jeune, et puis aussi des interprétations très figées qu'on a de sa musique, une musique qui nous est transmise écrite sur des partitions, a en fait possibilité, offre des possibilités d'innovation complètement folles. Écoutez-le.
C'était un improvisateur qui était célébré dans toute l'Europe, déjà très jeune, pour ses concerts, pour ses compositions, bien sûr. sûr, mais notamment aussi pour ses improvisations. Et j'ai toujours été assez convaincu en lisant les partitions, que ce soit les concertos, les sonates, etc., que ben voilà, c'était un génie. Il devait avoir on sait qu'il avait une mémoire musicale phénoménale. Et donc je me suis toujours dit que lui, il improvisait, mais qu'il fallait bien publier les partitions, donc il fallait bien écrire, quoi. Mais on sait qu'il était tout le
par
temps
par nécessité, donc
voilà, il était tout le temps en retard, il avait tout le temps des commandes, c'était pas un très bon gestionnaire du temps, quoi. Et j'avais lu une fois un article que Alfred Brendel avait écrit, je crois que c'était dans le Times, où il parlait de l'interprétation des concertos, et il disait voilà, parfois il y a deux fois, trois fois ou même quatre fois la même phrase avec le même accompagnement à la main gauche. Et évidemment, il ne faut pas faire quatre fois la même chose. Mozart lui-même, il ne faisait certainement pas quatre fois la même chose.
Bach, les jazzmen s'en sont beaucoup, beaucoup emparés. Mozart, beaucoup moins. Pourquoi ?
Pour moi, c'est plus difficile qu'improviser sur Bach. Et je crois que ça tient à une sorte de fragilité, de pureté qu'il y a dedans. C'est assez difficile à décrire, mais j'ai plus peur de casser la magie en improvisant sur Mozart qu'en improvisant sur Bach. Il y a quelque chose de fragile, de délicat, que j'ai envie de conserver quand j'improvise dessus, parce que j'ai pas envie d'affaiblir l'œuvre. Je veux l'emmener totalement ailleurs et la rhabiller totalement autrement, mais en gardant ce qui me plaît dedans. Et ce qui me plaît dedans, c'est souvent cette fragilité, cette ambiguïté, ce sourire, cette étincelle, cet éclat un peu enfantin qu'il peut y avoir chez Mozart, même dans les œuvres les plus tragiques.
Le groove génial de Thomas Enko sur ce La ci darem la mano qui, après Chopin et un certain Beethoven aussi, improvise sur ce thème si limpide d'un Mozart qui, on l'entend, est facile à reprendre, enfin plutôt difficile à reprendre, mais qui pourtant laissait la place. Sans doute lui-même aurait adoré chercher, c'était un chercheur en permanence. On l'entend dans cet objet si particulier qu'est cette petite aria, dans cet opéra si particulier qu'est Don Giovanni, baptisé l'opéra des opéras, sans doute l'un de ses plus importants, de ses plus personnels, puisque c'est un drama giocoso, un drame joyeux. On y trouve, comme chez Mozart, une espèce de résumé de sa capacité à faire danser, à faire rire et à terrifier avec cette figure du commandeur dont on a longtemps glosé sur le fait qu'il pouvait être associé à la figure de son père, le père Mozart, qui avait formé, poussé ce garçon à l'excellence jusqu'à l'épuiser. Cette limpidité de Mozart, elle fait qu'on le reconnaît immédiatement, que parfois on a du mal à y toucher, Alors que sans doute, on devrait écouter la pianiste Anne Kefelek comparer cette musique à du cristal.
Son écriture est tellement parfaite, tellement limpide, tellement clarifiante que on a la sensation que c'est du cristal, mais que en effet on n'ose pas toujours toucher le cristal puisqu'on peut laisser des traces de doigts malvenues. Mais par ailleurs, tout de suite après, quand je me dis ça, je me dis mais il faut boire dans ce cristal. Et c'est tellement de la vie cette musique. La musique de toute façon, c'est de la vie.
ضيعني الهوى شي صار في قلبك بتلاقيني وخبيني 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 لياليك بعيني شبابي مضوي سفرني يا حبيبي سفرني بلياليك على طول لا تنسى وعيونك تاخدني وتوعدني بلياليك لياليك تركوا تركوا سهر الباب والعاشق لما جناح تركوا اساميهم على الباب على كتب الدمع وراحوا نسيوا بعض وارتاحوا نسيوا بعض
d'œuvre, œuvre du génie conjugué de quatre personnes, celui de Mozart, mais aussi celui de l'incroyable Fairuz, immense chanteuse libanaise, et des frères Assi et Mansour Arbani qui sont à la composition et qui tissent cette musique à la fois profondément arabisante, libanaise, où chaque phrase, chaque note semble respirer avec une mélodie qui serait moyenne-orientale, avec des intervalles caractéristiques, parfois microtonaux, qui donnent à la voix de Fairuz, qui se comporte vraiment dans cette chanson comme un instrument, presque comme un petit piano, avec cette capacité incroyable à phoner extrêmement délicatement et de manière beaucoup plus pleine quand elle en a besoin. Cette chanson repose sur une structure qui a des répétitions, des variations, qui rappelle autant le chant savant arabe que la musique populaire. Il y a toujours cette espèce d'équilibre entre l'improvisation apparente et une rigueur harmonique qui serait présente et qui serait là pour raconter à la fois la solidité de la grande tradition arabe, mais aussi la solidité de cette grande tradition classique occidentale que les frères Rabbani avaient vraiment envie de voir se rejoindre en créant la musique qu'ils ont créée, incarnée par Fairuz, un travail qui crée un effet presque hypnotique parce que c'est dans sa subtilité, cette nous dit que c'est une musique évidemment capable de parler à la fois au cœur et au corps dans un langage culturellement qui a l'air très précis, alors qu'en réalité il est vraiment à la rencontre des deux imaginaires, celui de Mozart et celui de la grande tradition du chant arabe. C'est aussi ce que permet la musique de Mozart, vous l'avez entendu dans le morceau qui a ouvert notre émission, qui était l'œuvre d'une tentative du producteur Hugues de Courson de rapprocher la musique égyptienne et la musique de Mozart. Ça a eu un énorme succès dans les années 2000, deux albums Mozart l'égyptien. Il n'y a évidemment pas de hasard car fondamentalement il y a dans la musique de Mozart des caractéristiques qui sont beaucoup plus larges que celles qu'il enfermerait dans simplement l'image du grand compositeur de musique occidentale classique, un peu embêtant ou un peu rigoureux. Écoutez.
«
Funky Mozart.
Mozart, un petit chef-d'œuvre de Pretty Pretty and the Playboys. On est dans les années 70, c'est mon Dieu. Qu'est-ce que Mozart se prête bien à cette déclinaison funk et ses accentuations rythmiques. On dirait qu'il est né pour ça, cet air. Et c'est pourtant exactement la même symphonie 40 que Fairuz reprenait, son symphonie de la maturité. Mozart a 32 ans à l'époque où il la compose. Équilibre absolument génial entre le fond et la forme. Schumann, qui avait étudié les partitions et repéré des erreurs, disait néanmoins que chaque note était d'or dans cette symphonie. Alors, vous entendez ici hein, la capacité qu'on peut vraiment aller chercher, y compris dans son œuvre symphonique, à aller chercher quelque chose d'assez dansant chez Mozart. Ça peut paraître pas nécessairement intuitif, alors que ça l'est profondément. Mozart a énormément composé pour la Vienne populaire, pour faire danser littéralement avec toute une série d'ariettes vraiment destinée à une production populaire. On vous épargne ici les milliers et les milliers de reprises de Mozart, notamment en électro, dans ce qu'on appelle l'EDM, cette grosse électro commerciale des années 2000, qui n'a pas cessé de reprendre Mozart, et notamment un motif qui, pour le coup, est identifié comme un motif dansant, qui a été repris, moqué souvent, et qu'on connaît tellement que parfois on n'en peut plus. La fameuse marche tuc, le rondo à la turca. Écoutez le génial et merveilleux Richard Galliano, accordéoniste de son état, lui aussi capable de faire danser les foules dans les bals en Auvergne, mais aussi de reprendre le très grand répertoire classique au disque avec son accordéon, nous parler de cette marche turque et notamment de la manière dont il l'entend quand il l'entend tout simplement enregistré au piano classique.
C'est un morceau, d'ailleurs nous on le joue un peu comme dans les orchestres de Kafkans, vous savez, à l'époque. Il était prévu que je le joue en solo à l'accordéon. Et au dernier moment, j'ai dit non, ça serait bien qu'on le joue à 5, mais il n'y avait pas d'arrangement. Donc j'ai donné la partie piano à chacun, tout le monde s'est débrouillé, et on a joué un peu d'une manière jazz, mais surtout avec ce drive. Et des fois je suis un peu... En écoutant, je m'ennuie. Je pense que une œuvre écrite comme ça, on a la liberté de la jouer, suivant l'état d'âme qu'on a aussi. C'est bon, un jour.
Mais vous n'accélérez pas tous les tempi.
Ah non non,
c'est juste une histoire d'humeur.
Non, je crois que c'est le bon tempo. Moi, la référence au bon tempo, c'est le tempo de la danse. Lorsque je choisis un tempo comme chez Kumbesi par exemple, ou chez Bach, pour moi c'est la même chose. Mais choisir le bon tempo et le bon tempo par rapport qui soit dansable. Penser une chorégraphie si on joue Piazzolla. Souvent aujourd'hui, bon, on peut dire que c'est la mode de jouer Piazzolla dans les concerts classiques. Et souvent, les musiciens prennent des tempos trop rapides. Et moi, lorsque je joue Piazzolla, je pense toujours au couple de danseurs, même s'il y a pas, s'ils sont pas présents sur scène. Thank you.
la mode, le style à la turque. Alors, il ne faut pas oublier, quand on écoute, la facilité avec laquelle, notamment, des instrumentistes, parfois klezmer, parfois arabisant, se saisissent de la musique de Mozart ou un Richard Galliano, qui vraiment fait le pont entre cette marche à la turque et les musiques de danse que lui a énormément joué. Il ne faut pas oublier que dans la veine du XVIIIe siècle, on vit déjà au contact de l'Empire ottoman, échanges diplomatiques, fascination mutuelle, il y a des modes vestimentaires à la turque, et il y a aussi une fascination pour les esthétiques musicales, les percussions, les timbres brillants, l'énergie rythmique. Ce style à la turque est en vogue, mais Mozart n'imite pas un Orient fantasmé, vraiment il s'imprègne de son langage. N'oublions pas aussi que la Vienne du XVIIIe siècle danse énormément. Cette musique, elle est profondément joyeuse. Rien d'étonnant finalement aussi à ce que certains grands compositeurs de musique, de danse, reprennent du Mozart, pas nécessairement les morceaux les plus apparemment sautillants, des motifs mozartiens, pour construire la danse du XXe siècle. C'est ce qui se passe dans les années 30. En Argentine, un certain Carlos Gardel va composer l'un de ses plus grands tubes, un grand tube de ce genre naissant, qu'est le tango, Por una cabeza, lui aussi, comme notre ami Legrand, s'inspire d'un motif mozartien un peu perdu dans une œuvre moins connue. Tango, écrit et composé pour le thème du film Tango Bar, avec Carlos Gardel qui incarne l'un des rôles principaux. C'est son dernier film présenté à New York en 1935 et quelques jours après la disparition, là aussi prématurée, de Carlos Gardel, 44 ans, qui est au sommet de sa gloire. Un peu comme un Mozart, il aura inventé un genre, produit de la modernité, et il n'aura pas survécu. De quoi vient ce petit extrait ? D'un rondo pour violon et orchestre. On est dans la quasi toute dernière partie de ce rondo pour violon et orchestre, probablement écrit pour le violoniste italien Antonio Brunetti, par un certain Mozart. C'est assez intéressant de voir comment ces musiciens que sont Legrand et Carlos Gardel, qui sont en train de générer une musique qui va accompagner le siècle, qui sont comme tous les bons genres musicaux, des musiques de fusion, vont aller prendre comme ça, par des, ce qu'on appelle plutôt une interpolation, saisir des motifs et là encore, se conduire plus en frère qu'autre chose. Cette musique de Mozart, qui est immédiatement reconnaissable, toujours extrêmement efficace, reprise à l'envi, elle a beaucoup aussi été moquée. On parlait de ce rondo à la turque, c'est probablement l'un des morceaux de Mozart les plus repris, les plus singés, beaucoup de versions ironiques, beaucoup de versions avec des voix enfantines, des voix d'animaux, tant cette musique sautillante peut presque énerver par sa simplicité et son sautillement. L'une de nos versions préférées de ce type, de ce répertoire entier qui consiste à produire de la chanson satirique sur du Mozart, elle nous vient d'un Boris Vian qui lui-même va mourir à peu près au même âge que Mozart en ayant, comme lui, produit avec une ardeur complètement délirante aussi bien de la littérature que de la musique, qui aura excellé dans le bon mot, la musique satirique, qui aura beaucoup ri, qui aura tiré le diable par la queue et brûlé la vie par les deux bouts, exactement comme Mozart. Écoutez, dans ce très court Mozart avec nous, qui reprend le rondo à la turque, ce qui semble passer au début, on se dit qu'il se moque justement de l'orientalisme de Mozart, mais on entend aussi l'énervement face à l'impossibilité de reconnaître le génie Mozart avec nous.
Autant des dorures et des falbalas, les marquis frivoles et les marquises aux frais minois, pour un menuet timide, esquissait trois petits pas. Grâce aux envolées, vieux airs du passé, clavecin fragile aux résonances d'autrefois, un gosse à perruque blanche a fait danser tous ces gens-là. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, non, tu n'existais pas encore. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, le Brésil n'en était pas là. Douce mélodie qui fit cent fois le tour du monde et que Mozart négligeait d'agrémenter de quelques cha-cha-cha sur ton rythme gai, danser les brunes et les blondes en oubliant le temps bien proche ou bien noter vos petits doigts. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, c'est votre vieille marche turque. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, venez marquise, écoutez ça. Tout près d'Istanbul, sous les pergolas, tous les jeunes turcs s'en vont danser le cha-cha-cha. Et la fraîche odeur des roses vient parfumer leurs ébats. Sous le ciel troublant des nuits de gala, quand un beau danseur serre une fille entre ses bras, dans les yeux de sa compagne, il sait ce qu'il trouvera. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, ce gai refrain qui nous enivre. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, et qui jamais ne finira. Que ce soit Rio, Paris, New York, les Dardanelles, on ne peut résister longtemps quand on entend venir cha-cha-cha. Rythme tropical aux senteurs d'ambre et de cannelle, emporte-nous bien loin de tout dans l'allégresse et dans la joie. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, nuits étoilées sur le Bosphore. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, drôle de truc turc que ce truc-là. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, non vraiment, on n'est pas fort. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, Mozart ne méritait pas ça, mais faut bien vivre.
people cussing and busting, they get nothing but in the ground with it blown out. Oh well, tell me how he got the stuff when he tough and he was young with a grown mouth. Zoned out, cause my mother is grown house. Empty what he sent me was the alone route. Bone out to the studio, hit the Don Julio. My duty go if I'm Rudy, yo, get up and get the song out. My angel fades, then came more rage. And even though strength's so paid, something inside of me singing it ain't your days.
My religion,
walking away,
my prediction,
lost in the gray. I'm thinking the Holy Spirit don't really wanna hear it. So people who giving me evil, they offering to pay. Anybody really want it? I'ma get dirty when a demon is my opponent. Feeling froggy any moment. No, you would never be the owner because I'm on it. Losing, mama really did it. Demons really gonna get it. I'm looking for the light, I'm asking you open it. Losing all of my inner good and the hope with it. Say weirdo, if you ain't in my circle, then you're not even near, bro. Here go the fear, though. Getting the Zilla and my killers in the villa to making racket in your ear go.
Blam, 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 blam.
That is severe mode. Bodies are not even with the jolly, my tears go.
Down my face.
Yeah. But I'm switching the gears, yo. Got on the plane to Colorado. I go to hit the summer jam, then mama tomorrow. I'm thinking the Lord will give me time on the Movado. To say a lover, but for the vibe, we'll go hollow.
Gone, 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 gone.
My show was sorrow. Needed a little bit of more time to borrow.
My time's up.
Steady talking to God, so I don't get it. Thought I was special enough for God to be with it by giving me another day with my mother, but I missed it. But rocking for Denver, sending her name, I'ma rip this.
Dun, 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 dun.
This ain't no way to be hella jaded, see, but I'm created. My mother loved me, but her death ain't okay with me. Still, I'm praying for her spirit to stay with me.
Le Lacrymosa, l'un des mouvements les plus célèbres, clairement les plus déchirants, de ce prodige qui est le Requiem en ré mineur de Wolfgang Amadeus Mozart, qui est composé en 1791, juste avant sa mort. Ce qui le rend particulièrement fascinant, puisqu'il est inachevé. Mozart n'a écrit que les 8 premières mesures de ce Lacrymosa. Et le morceau a été complété juste après sa mort par son élève, Franz Rever Süssmayer, que vous entendez ici dans une version presque inégalée par le chef Colin Davis. Et malgré cet état inachevé, le Lacrymosa, il occupe une place centrale dans l'œuvre de Mozart. Il exprime la tristesse, l'angoisse, liée à cette grandeur dramatique du texte liturgique. Mozart qui avait tant écrit de musique sacrée, et cet équilibre absolument subtil entre intensité vocale et accompagnement orchestral, une forme de fragilité, suspension, qui en font un passage en fait très ouvert à l'interprétation moderne, on peut le dire. Et c'est cette tension entre le fini, l'inachevé, le sacré, l'intime qu'utilise le génial rappeur Tech N9ne, l'une des plus belles plumes des années 90 du rap américain, Aaron Dantes Yates, de son prénom, qui, sur son album Special Effects en 2015, va d'une certaine manière reprendre, mais faire plus que simplement sampler. Il y en a des dizaines de milliers des samples, évidemment, de notre ami Mozart. Mais ce qui est intéressant dans cette version, c'est qu'il va d'une certaine manière transformer, réécrire le texte liturgique en latin. Il ne se compote pas de poser un fragment. Il va intégrer le motif de Mozart comme une ligne émotionnelle profonde qui va compresser et décompresser pour raconter justement un événement qui le frappe et qui le met en colère contre Dieu, qui a des similitudes avec la vie de Mozart, qui après avoir perdu son père a beaucoup souffert, sans doute beaucoup culpabilisé. C'est bien la mort de sa mère que Tech N9ne tente de traiter, d'exorciser dans ce morceau.
Lacrymosa, is Latin for weeping.
Lacrymosa, c'est un mot latin pour dire les pleurs. C'est fou. Mon producteur avait ce beat prêt et moi, je venais de perdre ma mère. C'était parfait. Lacrymosa. Les larmes sont si sérieuses. Viens, Esprit Saint, et reste avec moi. Reste toujours. Parce que je souffre d'avoir perdu mon vrai amour. Et là, je parle de ma mère. Et en fait, on a demandé au chœur de chanter ces mots-là pour remplacer les vers originaux qui sont en latin. Enfin bref, moi je sais pas ce qu'ils disent en latin. J'avais besoin de remplacer ça par des paroles qui me parlaient à moi. On a juste gardé cette idée du lacrimosa, le fait de pleurer. Et moi, je parle du fait que je pensais que Dieu m'aimait. Il m'avait aidé. J'ai appris que ma mère était malade et j'ai pu sauter dans un avion le 6 juin. En plein milieu de ma tournée, j'avais un jour off. J'atterris, on me dit qu'elle est déjà morte. J'ai tellement souffert et je me suis dit, mais Dieu ne m'aime pas. Personne ne m'écoute en fait quand je prie. Et donc j'ai écrit ce lacrimosa. Je ne comprends pas ce que vous faites.
Sueño es todo lo que queda de ti, una cruel ilusión que marchita mi vida. Eres un rosario que nunca rezó, un enredo fatal que me arrastra sin camino. Canto la amargura de mi corazón, hoy me queda un minuto de luz y lo pierdo contigo. Santa, yo te hacía bendita mujer, pero se equivocó mi querer y me hundo en el olvido. Lacrimosa, un puñal es tu cariño, no me lo claves que aún vivo curando las noches de amor que te di. Quiero beberme tus ojos, llorarlos sin
Juan Luis Guerrera, chanteur dominicain, extrêmement grand chanteur de bachata, de boléro, qui reprend ce lacrimosa dans un... vraiment avec un génie extrêmement humble qui nous fascine dans cet exercice assez classique de la musique latine, du mea culpa masculin, de la complainte, de la masculinité à la fois triomphante mais blessée. La manière dont ce lacrimosa s'accommode extrêmement bien de la rythmique latine, en l'occurrence de celle de la bachata, qui fait de ce lacrimosa quelque chose qu'on a déjà dit plus tôt dans l'émission, c'est-à-dire un morceau extrêmement dansable, nous montre l'incroyable versatilité de la musique de Wolfgang Amadeus Mozart, et aussi sur cette caractéristique qui est sans doute la plus importante. Vous l'entendiez dans le générique concocté par notre réalisateur, le très doué Thomas Jost, cette capacité de Mozart à nous parler de tous les lieux de l'expérience humaine. Cette musique qui, en réalité, est quasiment retournable à l'infini. On a entendu des marches turques drôles, on a entendu des symphonies numéro 40 qui se font dansantes, d'autres qui se font élégiaques. Il y a toujours cette caractéristique fondamentale de l'ombre et de la lumière chez Mozart, comme le raconte Piotr Anderszewski.
Chez Mozart, il y a cette chose incroyable de lumière et d'ombre. C'est-à-dire que c'est le compositeur le plus lumineux et le plus sombre en même temps. Et en fait, les deux s'entremêlent de la façon la plus naturelle et la plus miraculeuse. Il y a aussi une forme de sagesse. En fait, c'est une musique que vraiment, plus on analyse, plus on l'écoute. Souvent des airs, des fragments qui ont l'air simples, qui ont l'air un peu presque enfantins. On se rend compte de à quel point c'est construit, justement, à quel point la chose est construite. Les rapports des tonalités, c'est une œuvre absolument parfaite, de la première note à la dernière. Et je ne sais pas, il y a juste quand même, bon, un lyrisme et une beauté lyrique, une beauté mélodique qui est sans pareil, je trouve.
La voix merveilleuse du délicieux Bobby McFerrin avec Chick Corea dans cette Song for Amadeus d'après le deuxième mouvement de la sonate pour piano numéro 2 en fa majeur. N'hésitez pas à aller vivre cet anniversaire 270 ans de la naissance de Mozart avec concerts un peu partout en France et même ailleurs. Merci beaucoup à Thomas Jost qui a réalisé cette émission, à Laura Dutèche-Pérez, l'attachée de production de la série musicale, et à Dalia qui était à la technique aujourd'hui. N'hésitez pas à podcaster la série musicale et à retrouver tous les épisodes de notre série L'Éternel Retour, et à la semaine prochaine.